Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, nous recevons Benjamin Tevel qui va nous parler de l'investir en bourse au travers d'un robot, mais aussi d'autres projets comme des fermes photovoltaïques. Bonjour Benjamin, comment vas-tu?
Ça va, merci. Très ravi de participer à ce podcast et de pouvoir un peu parler de mon changement de vie pro, de l'aéro au monde de l'entrepreneuriat. Donc, très heureux d'être parmi vous.
Mais écoute, moi je suis ravi, grâce au réseau et aux gens qui m'ont parlé du robot pour investir, je suis ravi d'avoir dans ce podcast, de pouvoir connaître un peu ton parcours et échanger ou donner des idées aux gens qui veulent se lancer. Donc Benjamin, tu connais un peu la thématique, comment on démarre toujours le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc Benjamin, raconte-nous un peu ton parcours s'il te plaît.
Alors, parcours personnel, je vais commencer par le parcours personnel. Je suis 42 ans, deux enfants, les deux sont nés à Hambourg. J'ai un chien, je suis marié à une herbusienne, elle aussi française. Bref, la vraie famille Hollywood, sur le papier en tout cas. Et sinon, je suis originaire de Savoie, des stations de ski, des Menuires pour être très exact. Pour ceux qui connaissent le ski, ils doivent connaître la station de ski.
Donc on fait un coucou.
J'habite désormais sur Hambourg depuis bientôt 9 ans. On habite depuis bientôt 9 ans. Mais j'avais déjà vécu à Hambourg de 2005 à 2008, donc c'est pas vraiment nous.
On y revient en fait à Hambourg. Hein, on part et puis on y revient, on s'y attache. C'est un peu ça.
On y revient, on s'y attache. Hein. Effectivement, c'est quand même quand il pleut pas, c'est une très belle ville.
C'est une très très bonne ville et comme disent les Hambourgeois, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que les mauvais vêtements, un peu comme en Bretagne. Pour pas faire de clin d'œil, mais on salue nos amis bretons aussi s'ils nous écoutent. Hein. Et donc on enchaîne un peu aussi sur ton parcours professionnel. Tu as dit Airbusien, donc un ancien collègue de Airbus dans l'aéronautique. Raconte-nous un peu ton parcours parce que tu m'avais raconté ça en off et c'est assez international, si on peut dire.
Oui, c'est vrai que j'ai commencé Airbus, j'ai été assez jeune, hein, j'avais 23 ans, donc juste sorti d'école, hein, avec un parcours un peu technique. J'ai commencé, comme la plupart des Français, à Toulouse. J'étais pas spécialement dédié à l'aéronautique, hein, même pas du tout, hein, j'avais aucune notion d'aéronautique.
Comme beaucoup.
Mais j'étais plutôt un dessinateur industriel et j'aimais surtout la technique.
Mmh.
Donc, l'avion, c'est quand même assez technique, ouais. Top. J'ai fait 3 ans à Toulouse. Après, j'ai eu l'opportunité, moi et mon copain, la 380, de nous développer sur Hambourg.
Mm-hmm.
Du coup, moi et la 380, enfin la 380 et moi, on a pu s'expatrier avec le premier vol.
Ouais, 2004-2005. Hein.
Pardon ?
2004-2005, et puis premier vol 2006 pour un
Exactement.
Peu l'histoire de ce bel avion. Hein. Enfin, moi, j'ai commencé aussi comme ça chez Airbus. Hein. On est venu pour 2 ans. Excuse-moi, et continue. Donc, le 380 t'a fait venir à Hambourg avec plein de thématiques.
Exactement. Et du coup, je suis venu à Hambourg comme un bon Français, en parlant bien français et très, très mal anglais, et encore moins allemand. Du coup,
comme beaucoup de nos auditeurs, petit clin d'œil.
Vrai cliché. Et puis, 3 ans après, mon anglais n'était pas meilleur parce qu'on était dans un groupe d'expatriés français. On était entre français. On mangeait français, on buvait français, on rigolait français. Bref, on était français.
Bravo à l'intégration.
Ouais, intégration proche de zéro, très honnêtement. Bon, okay. Mon ancienne copine était allemande, donc elle m'avait appris quelques mots allemands et on communiquait.
Rudimentaire.
J'ai pas parlé. On communiquait en anglais, mais c'était assez basique.
Uh-huh.
Et puis, au bout de 3 ans, j'ai eu l'opportunité de partir pour Tianjin, pour la Chine, pour développer la FAL.
La FAL 320.
Je suis arrivé avec les dix premiers expatriés du 320, donc allemands et français. Enfin, c'était un peu partout, hein,
Des
allemands, français,
internationaux, ouais. Enfin, alors,
anglais.
je voudrais profiter, j'imagine que, je ne sais pas si tu la connais, mais on va faire un clin d'œil à un ex-Serbusien aussi, un ami colombien, et qui parle très bien français, tu as dû sûrement le connaître, Gonzalo, il était aussi parti en Chine. Gonzalo, si tu nous écoutes, hein, un saludo, je crois qu'il est à Bangkok, en Thaïlande.
Exactement.
Tu le connais aussi?
Un gros bisou. Bah, en fait, je le connais plutôt très bien puisque j'étais à son mariage en Colombie même.
Ah très bien, mais muy bien, le monde est petit.
C'est moi qui lui ai fait découvrir, rencontrer, embrasser sa femme. Donc,
Ah d'accord, oh là là, ok, toute une histoire. La boucle est
voilà.
bouclée, enfin.
Ok.
Gonzalo, manifeste-toi si tu nous écoutes à Bangkok, hein.
Il est plutôt busy avec son nouveau travail
Je sais,
désormais
ouais,
chez.
je sais, ouais.
Donc voilà, la Chine, bah pareil, hein, j'ai fait 3 années en Chine. Hein, pour moi, ça a été l'époque de la maturité, là où j'ai appris l'anglais, parce que bon, on n'a pas le choix en
Pas de
Chine.
choix, ouais, on est d'accord.
Et puis l'allemand, surtout, en fait, mon équipe chinoise, et il y en avait pas mal qui ne parlaient pas anglais, mais qui parlaient allemand.
OK.
Ou avec mes collègues aussi, ma première équipe, il y avait pas mal de collègues allemands dedans. Donc c'est là où j'ai vraiment explosé
La
en
première
niveau langue,
OK.
que ce soit l'anglais ou l'allemand.
OK. Comme
Et
quoi?
puis c'est là où j'ai commencé également, grâce à cet environnement-là, à être un peu moins franco-français, à aussi m'ouvrir à d'autres cultures.
Ça, c'est très bien. Ça, c'est un bon message à passer. Le côté franco-français. La problématique, moi, j'ai toujours vécu à l'étranger et je suis un peu d'origine sud-américaine et française. Donc, j'ai par obligation cette connaissance d'ouverture, obligé d'être entre plusieurs cultures. Et c'est vrai que pour beaucoup de Français, quand ils viennent en Allemagne, on a déjà indiqué sur d'autres épisodes, ben, c'est pas évident puisqu'on vient d'un point de vue éducation et de culture. Ben on se retrouve ben, par simplicité, par facilité peut-être, par limitation de la langue aussi, il hein, ne faut pas se leurrer. Hein. Je renvoie toujours nos amis pour pouvoir s'intégrer dans un pays, ben, la première étape c'est la langue. Hein. Donc c'est bien que tu partages cette expérience parce qu'au final ça a une valeur ajoutée qui est impressionnante, quoi.
Ben moi, en fait, celui qui m'a plutôt ouvert à ça, c'est Gonzalo, hein, notamment.
Ok.
Et lui, il est quand même, c'est une personne assez
Très communicant,
solaire,
ouais.
communicante. Du coup, il y a beaucoup de gens
Viennent vers lui.
qui on partait tout le temps tous les deux avec Gonzalo, un peu
Ah.
partout. On voyageait ensemble aussi, on a découvert quelques pays. On faisait de la plongée,
Ouais.
du coup,
Ok.
on groupe de plongée. Et voilà, c'était hyper mixte. Et c'est là où vraiment on sait, que ça soit allemand, espagnol, français, bon, colombien notamment, sud-coréen, enfin bon, bref, là on s'est vraiment ouvert à. Ça a été vraiment pour moi comme une révélation, quoi.
Ah, bah
La France, c'est bien, toute mon éducation était top, mais aussi il y a d'autres éducations qui peuvent être également top. Et donc de mixer tout ça, c'est encore plus top. C'est là, voilà, c'est là où vraiment la maturité, elle a démarré pour moi en tout cas.
D'accord, bah écoute, c'est intéressant d'entendre ce genre de message. Du coup, après la Chine, tu es revenu, je pense que c'était la mise en place de la chaîne d'assemblage, hein, la FAL, en mot technique, mais. Pour les gens qui ne sont pas nécessairement aéronautiques, bah c'est une chaîne de production qui a été montée en Chine. Tu es revenu au bout de 3 ans, en Allemagne ou en France? Comment ça s'est passé ton
Non,
retour?
alors je suis revenu encore à une nouvelle entité. Je suis revenu sur la
Ex.
Canebière à Marseille, et donc super. Et pour les hélicoptères, donc
Ok.
à l'époque ça s'appelait Eurocopter, maintenant c'est
Ah oui,
Airbus
c'est l'hélicoptère.
Hélicoptère. Voilà un autre style, donc plus du tout technique. Là j'étais acheteur,
Ok.
et c'est là, ça a été la deuxième phase où là ça a été la rencontre de ma femme. Et la rencontre aussi d'une région en France que je connaissais absolument pas, le PACA, et que j'ai adoré. C'est
Ok.
vraiment une super. On habitait au bord de la mer, enfin c'était génial. Hein. Je conseille à tout le monde, au moins, si c'est pas de travailler chez Airbus Hélicoptère, d'au moins aller visiter cette région, elle était au top.
Ok, ben on fait un voyage aussi dans les régions françaises, c'est bien. On commence déjà cet épisode avec énormément de sujets. Bien sûr, la région PACA, pour un Savoyard aller sur Marseille, les Calanques, tout ça, enfin voilà, ça fait rêver. Revenir à Hambourg, la pluie, bon, c'est une belle ville aussi, on appelle la Venise du Nord, hein. Donc, tu as été la rencontre, rencontrer ta future compagne ou épouse, je ne sais pas comment on dit, épouse, oui, tu es marié.
Marié maintenant, ouais. Enfin.
Et voilà, et donc c'est l'avantage aussi, je pense, dans ce genre de société, c'est que tu peux passer d'une entité à une autre. Donc tu as passé combien de temps à Marseille? Ou à Aix, c'est Aix, hein?
Non, c'était vraiment Marseille,
Marseille,
hein.
ok.
J'habitais vraiment enfin, la ville à côté de Marseille, dans les Calanques. Donc,
Ah
big up à tous ceux qui habitent dans les Calanques. C'était le tof du tof. Vie de rêve.
ouais.
Mais c'était pour quelqu'un qui vient d'une longue expatriation entre la Chine et l'Allemagne.
Ouais.
C'était malheureusement pour moi peut-être. Je suis revenu dans une vie pas très compliquée. Je parlais français, j'achetais ma baguette, tout le
Ouais.
monde était français autour de moi. Ça me manquait le fait de parler,
Ouais.
de rencontrer d'autres cultures.
Cette excitation d'être à l'étranger, c'est vrai, d'être
L'étranger.
l'exception. Tu reviens dans la masse. C'est marrant parce que ce sujet, on l'a pas encore abordé dans ces podcasts. Il faudra qu'on l'aborde, c'est-à-dire le retour au pays qui est un peu difficile puisque tu retournes entre guillemets, dire dans la masse, dans la normalité. Hein. C'est pas pour
L'anonymat.
créer. Dans l'anonymat, bien que tu peux être dans l'anonymat dans une grande ville en étant français, à Hambourg, on aime énormément, mais tu as cette étiquette en plus, le français ou l'expatrié ou l'étranger français en Allemagne, tu vois. Et
C'est vrai.
je peux comprendre complètement cette problématique et j'imagine certains de nos auditeurs la connaissent en se disant, voilà, on revient en France ou la question, ceux qui sont expatriés, le retour en France. Et je pense que ça sera l'occasion de faire un épisode. Donc, si des auditeurs, entrepreneurs, ou dans la thématique retour au pays, on avait déjà abordé le sujet, je pense, avec une avocate à Munich. Et je pense que ça peut être un sujet pour prochain épisode. Mais revenons un peu à ton parcours, Benjamin, excuse-moi, je fais de temps en temps des digressions, voire souvent. Donc une vie agréable au soleil, avec un boulot sympa à Marseille, rencontrer la rencontre, tu as indiqué, la femme de ta vie. Voilà, on devient romantique ici, là, sur ce podcast.
J'espère que ça sera celle de ma vie, ouais, c'est clair.
Elle écoute, elle va, attention, hein. Et
Je lui ferai
donc,
écouter le podcast.
pardon?
Je lui ferai écouter le podcast, elle sera heureuse.
Mais bien sûr, on est ouvert à tout. C'est pas de problème, on est dans le partage. Et ton retour à Hambourg s'est fait comment?
En
Ou
fait,
bien...
on m'a redemandé si je voulais revenir dans le côté avion.
Ok.
Pour développer la fale US, celle de l'Alabama,
Alabama,
à
ouais.
Mobile.
Mobile.
Du coup, moi, de gérer la Chine et de faire quelques petits. De faire le pont entre la Chine et les US. Du coup, je suis revenu en Allemagne, mais pour gérer la fale Chine et pour aider mes collègues de la fale mobile à développer les outillages, les jigs, pour être honnête.
Ouais,
La fale en.
en fait, c'est les jigs pour nos amis qui sont pas dedans, c'est sur lesquels on pose c'est l'équipement pour poser l'avion dessus ou les parties d'avion. Et peut-être aussi préciser pourquoi venir à Hambourg pour la FAL 320 à Mobile, puisqu'en fait, d'un point de vue avion, hein, c'est un sujet aussi qui me passionne, hein, c'est pas pour rien que ça fait 17 ans qu'on est dans les avions. Le 320, on va dire la centrale, pour pas vexer les Toulousains, où la partie FAL est gérée depuis l'Allemagne, quoi, donc depuis Hambourg. C'est ça, hein?
Exactement,
Ok.
exactement.
Ok,
Du
donc...
coup, le chef était allemand, il m'avait connu en Chine et ils devaient développer la fale US. Ils m'ont dit, reviens avec nous, comme ça, tu gères la fale Chine, on n'a pas à faire un focus dessus. Tu sais déjà, côté outillage, hein, bien sûr. Et nous, on gérera le côté fale mobile, enfin à la base. Et tu viendras nous aider de temps en temps sur des sujets quand il s'agit d'être un peu plus technique avec tes équipes. Donc c'est exactement ce que j'ai fait pendant 3 ans.
OK. En quelle année c'était pour juste un peu situer
2013, je crois, à 2015,
OK.
2015-2016.
D'accord.
Et suite à ça, au bout de 3 ans, bon, bah, la FAL
Mise en place,
était
ouais.
libre. N'y avait pas trop de soucis. La FAL Chine, honnêtement, elle roulait. Il n'y avait pas vraiment de quelqu'un comme moi. Ils savaient faire, les Chinois, ils étaient largement autant compétents que moi. Du coup, bah, j'ai pu switcher un peu sur un nouveau job qui était, je suis allé chez Satair, rejoindre encore une fois Gonzalo.
Ah oui,
Toujours lui.
la partie in-service, hein, Satair,
Exactement.
qui fait la gestion MRO, c'est maintenance, repairs and overhaul. Moi, je ne veux pas étaler ma culture aussi, hein, mais
C'était exactement ça.
c'est ça,
C'était
hein,
exactement
ok.
ça. Pour les ripaires de MRO.
Okay.
Mais
Oui, mais c'est vrai, c'est
ah,
Gonzalo qui gérait ça. Ah, donc tu travaillais avec lui. Ah, bah tiens, le monde est petit.
lui qui m'a fait venir.
Ouais, ok, ah, bah oui.
Du
Ok.
coup, j'ai fait 3 ans chez Satair. Et puis, mon dernier job à Airbus, hein, c'était à la CAPEX. Donc, j'ai adoré ce job. Où, techniquement,
Capability expense, c'est capability
Capital Expenditure.
capital expenditure, ce qui est explique un peu pour nos auditeurs ce à quoi ça correspond.
En gros, quand il y a quoi que ce soit comme nouveau projet à Airbus, ils vont demander de l'argent. Je sais pas, ils veulent par exemple ouvrir une nouvelle ligne d'assemblage en Chine, donc là, A300, un nouvel avion par exemple. Ils vont nous demander à nous, voilà, on a planifié X millions d'euros pour cette chaîne-là. Nous, notre job à nous, c'est de s'assurer que ces X millions, ils sont validés par le top board. Et nous, notre job à nous, c'est le challenger. Donc, techniquement, on doit connaître cette nouvelle falle sur le bout des doigts, techniquement, et côté budget aussi. Donc, on est les technico-commerciales top top d'Airbus et on reporte
Project
au
management.
chef finance de tout Airbus. Donc, c'est partie du projet, de A
Ok.
à Z.
Ah, ok. Donc c'est la distribution des différents budgets sur les différentes expenses ou investissements des différents, que ce soit outillage, bâtiments. Ok.
Je sais pas, dès qu'il y a une nouvelle usine, ils veulent s'équiper de sécurité, de nouvelles caméras, ben ça passe. Tout ce qui était, techniquement, c'est tout ce qui était au-dessus de 500 euros. Donc voilà, c'était
Ah ouais, ça
vraiment
va
tout.
vite, hein.
Vraiment, vraiment tout, quoi. On
Ok.
pouvait négocier, on va dire, une méga grosse imprimante, comme on pouvait négocier la nouvelle ligne d'assemblage d'un nouvel avion à hydrogène. Notamment, j'étais côté hydrogène et sustainability. Donc, je voyais passer tous les dossiers sur le développement d'Airbus dans le green, dans le
Ah, d'accord.
sustainable.
Ok.
Donc,
Ah
on est dans toutes les tendances, toutes les projets futurs qui se réalisent ou pas, hein, mais en tout cas, on est au courant de tout. Ça,
ouais.
c'est
Ok.
cool.
Ah, c'est intéressant. Et donc, on arrive à notre sujet, puisqu'on part de quelqu'un qui a été salarié, qui a voyagé avec une grande société, et qui, à partir d'un moment, qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas, à partir dans l'entrepreneuriat? On vient à notre sujet, au bout d'un certain temps, ou comment ça s'est
En
passé?
fait, quand j'ai intégré Airbus, donc il y a de ça 19 ans, j'ai eu des parents qui ont toujours eu plein de business différents, hein, que ce soit location de ski, une patinoire, un bar dans une supérette, ou plein de différents. On a eu un Laser Quest, on a
Ok.
vraiment eu tout un tas de types de business différents. J'ai toujours eu ce côté.
Touche à tout.
Ouais, entrepreneur vis-à-vis de mes parents, et ça m'a toujours manqué le fait à Airbus. On fait quand même partie de. Alors, je vais jamais dénigrer Airbus, hein, c'est grâce à Airbus que déjà j'ai rencontré ma femme, j'ai appris plusieurs langues, j'ai découvert des super personnes et des super cultures. Mais il me manquait quelque chose, il me manquait ce côté entrepreneur où, voilà, Airbus, on le sait tous, on a au-dessus de nous un
Quelqu'un,
nombre considérable de managers. Donc les décisions, elles ne sont jamais vraiment prises par nous. Je me suis dit, ben voilà, dans ma vie, j'aimerais au moins avoir un business où je me dis, si je me plante à cause de moi et moi seul. Et si je réussis, je réussis grâce à moi et mes partenaires. Du coup, je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être le bon timing, l'âge de maturité.
Un besoin de prise de risque peut-être, ou de se tester sur autre chose, c'est peut-être ça.
Et puis j'avais un matelas financier qui me permettait aussi de voilà, j'avais
De
ce
tester,
matelas que je. Donc ça m'a aidé aussi dans ma décision, c'est clair.
oui, c'est sûr. Donc c'est bien, parce que c'est bien de peut-être soulever ce point-là, et on l'avait indiqué souvent nos invités qui viennent d'apporter leurs conseils. Quand ils se lancent, de réfléchir leur projet, bon, beaucoup parlent de dire d'avoir un business plan et autres. Moi, je m'étais lancé sur des expériences, sur des projets sans business plan, en disant, voilà, c'est simple, j'achète, je revends, tu fais tant de marge. Mais l'important, c'est se dire d'avoir un backup, ou on va dire un matelas de réserve. Si, ben, si ça plante, ou si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire tu n'atteins pas tes objectifs on va dire, de vivre de ton projet, de se dire, OK, combien de temps je peux tenir sur, on va dire, de l'épargne ou sur des réserves financières. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme tu t'étais construit un matelas de sécurité, tu t'es dit, bah, je teste et puis ça me permettra de... Bah, si ça fonctionne, c'est génial. Si ça ne fonctionne pas, je peux toujours repartir sur autre chose. C'est ça, hein.
Et en plus, mon matelas financier devient aussi un de mes business. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'a aidé aussi dans la décision.
Okay.
Disons que le robot, ça a été mon matelas. Bon, j'ai été client avant de développer le robot. Hein.
Mm-hmm.
Le fait d'avoir été client et d'avoir éprouvé ce système et approuvé ce système, bah, mm-hmm. du coup, mon matelas financier, je fais que l'accroître. Donc c'est okay. le top. Quoi.
Ouais, c'est j'ai, clair. J'ai...
Niveau risque,
ça s'auto-alimente. Donc on en vient. Donc en fait, tu es venu à investir dans ce robot qui a été mm-hmm. créé il y a quelques années par ton partenaire, qui lui. Donc on peut en toucher un mot. Peut-être nous expliquer un peu comment ça fonctionne ou comment se sont passés tes débuts.
Je vais faire la genèse. Pourquoi je suis arrivé à être maintenant partenaire du robot.
Mm-hmm.
En fait, de base. Comme tout le monde, quand il y a eu le boom un peu des actions, de comment on peut investir en bourse, on a tous écouté quelqu'un qui a dit « Ah ben moi, je fais de la crypto, je fais de ci, je fais de ça, je gagne, je double mon salaire ou j'ai plus besoin de travailler ou je me fais juste 100 euros de plus par mois. » Bref, on a tous écouté quelqu'un ou un copain à nous qui a fait ce choix-là. Moi, comme tout le monde, j'ai essayé...
On teste tous, on est d'accord.
Voilà. Et très rapidement, je me suis aperçu que j'étais vraiment nul et pas fait du tout pour ça. Mais alors, du tout. Dans le sens où c'est le stress psychologique. Quand on gagne, tout va bien. Mais alors, quand on perd...
Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on... Ouais, c'est là, ouais.
On rend tout ? Est-ce qu'il faut racheter ? Est-ce que... C'est quoi la stratégie ? Et voilà, je me suis aperçu que c'est un vrai métier et que si on voulait avoir une stratégie gagnante, il fallait avoir des règles de base. Bref, ce n'était pas pour moi.
Une discipline. Trop impulsif. Ouais. Trop émotionnel.
Trop émotionnel, ce n'est pas quelque chose. Et puis surtout, ça me prenait énormément de temps et d'investissement à étudier quoi acheter, quoi suivre. Je me levais le week-end, regarder mon téléphone pour voir où en est la bourse. Je me voyais faire avec mes enfants où j'étais avec eux, mais sans vraiment être avec eux. Donc je me suis dit, non, ça c'est hors de question. Je veux pas me sacrifier moi-même juste pour quelques centaines d'euros que je faisais pas en plus. Hein. Très honnêtement, j'étais plutôt perdant que gagnant. Donc, non. Et puis voilà, après j'en ai parlé de ça au boulot avec des collègues et un collègue qui était un peu plus doué que nous au trading, qui suivait, qui avait pris des cours, qui était lui, il voulait presque en faire son métier. Il me parlait de ça, donc il me parlait de technique, j'y comprenais rien, mais ce que j'avais retenu, c'est qu'il m'a dit « Ah bon, et quand je m'embête, je mets de l'argent sur un robot, il trade pour moi, c'est automatique, mais bon, c'est moins amusant. » Et moi, tout de suite, je me suis dit « Attends, le côté amusant, je trouve pas du tout la bourse amusante. » Pour moi, la bourse, c'est pour essayer de gagner un peu plus, plus que mon pauvre livret A ou livret d'épargne qui fait, comme on a tous, à 1%.
Voire moins.
Non, je crois qu'ils sont montés récemment.
Ouais, c'est revenu à 1,25, c'est vrai.
D'avoir la chance et le privilège d'avoir 1%, si je me rappelle bien.
Ouais.
Donc, je me suis dit, en tant qu'expat, où honnêtement, on gagne un peu mieux notre vie que si on n'était pas expat, je me suis dit, je peux économiser, je peux épargner et gagner quelque chose un peu plus conséquent que notre livret A. Et là, j'ai commencé à lui demander, OK, c'est quoi ton robot ? Explique-moi. Et donc, il m'a expliqué, attention, sur Internet, il y a des millions et des millions de robots, des robots qui marchent, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je peux te conseiller un robot, essaie, suis-le d'abord et puis, voilà, tu vois. Du coup, c'est là où... Bah, j'ai fait ma première rencontre avec le R2-D2. C'est vraiment ça son nom, hein, comme Star Wars.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même... c'est bien des geeks, ça, quoi.
Non, c'est des geeks, mais c'est vrai que... Le nom R2-D2, maintenant que je fais partie du système, je trouve ça assez attrayant. C'est quand même le robot le plus connu au monde, c'est R2-D2, quoi. J'ai suivi ça avant d'être client. J'ai suivi, j'ai regardé les perfos et puis je me suis dit un jour, je me suis dit, allez, je me lance, je vais pas ruiner mes économies. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben voilà, j'aurais perdu
La partie
le
ta
peu que
mise.
j'aurais mis dans ce. Et puis à ma grande surprise, ben voilà, hein, tout ce qui était annoncé dans le site, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc au bout d'un moment, quand j'ai vraiment décidé de quitter Airbus, ben, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé le créateur du robot, donc qui s'appelle Aymeric Delon, et voilà, je quitte Airbus. Comme tu le sais, je suis un de tes clients, un de tes abonnés, et j'aimerais savoir si tu serais intéressé pour que je t'aide à développer ce robot un peu plus à l'international, être avec toi dans toutes les étapes pour grossir, faire des séminaires, et voilà. Pas à ma surprise, parce qu'on avait déjà quelques fois parlé de ça avec lui, mais il m'a dit, hey Banco, je suis prêt à te laisser un peu d'espace, et puis viens avec ta vision d'abonné, et dis-nous là où on est mauvais, là où on est meilleur, là où on devrait s'améliorer. Donc j'ai dit, ok, ça serait bien de changer le site, ça serait bien de faire des séminaires pour expliquer, ça serait bien d'expliquer la stratégie du robot, ça serait bien d'expliquer pourquoi tu as créé ça, blablabla, blablabla. Donc on a fait notre premier, on avait organisé notre premier séminaire à Hambourg en décembre de l'année dernière. Et puis malheureusement, Covid étant, ben, on n'a pas pu le faire, donc on l'a fait en visio, qu'avec des Français. On avait planifié de base avec ben, pas mal de Colombiens d'ailleurs, et des Allemands. Et puis voilà, on fera une deuxième session avec eux probablement en avril-mai, ce qu'ils nous ont demandé. Et puis voilà, je me suis lancé avec eux. Ça fait pas longtemps. Officiellement dans le robot, ça fait j'ai attaqué depuis octobre
2021.
2021. Avant,
D'accord.
j'étais client et maintenant je fais partie de R2D2. Tu peux m'appeler 6PO, tu peux m'appeler Chewbacca.
Je sais pas. Alors attends, j'aimerais bien revenir là-dessus un peu. La thématique est intéressante parce que un parcours assez varié. Bon, j'ai vu le côté entrepreneur et commercial, la trempe que tu as au fond de toi. De l'apporter en fait, et je pense que c'est ce qui va aider à transformer. Je pense que ça doit bien marcher entre toi et le créateur du robot. C'est que tu as vécu le côté en tant que end user, donc le client, et tu fais ce retour-là. Donc je pense que ça peut être que gagnant pour dire, mais voilà, t'attaquer aux problématiques du client pour les améliorer, transformer la communication. Vendre mieux le produit, faire beaucoup de pédagogie. Donc voilà, je pense que c'est intéressant parce que moi j'en ai entendu parler indirectement. Puis je me suis dit, bon, un robot, on entend tellement. Bien sûr qu'on s'intéresse, en plus avec le confinement, la pandémie, on s'est tous mis à regarder, ben, à investir en bourse. Mais comme certains te disent, si ton coiffeur commence à te conseiller d'acheter telle et telle action, voilà, tout le monde est expert à un moment. Il y a un certain doute et j'aime bien ce que tu dis dans le sens où tu t'es testé à passer du temps à apprendre parce que c'est quand même un sujet important, c'est-à-dire de faire l'exercice, de tester soi-même et puis se rendre compte, bon ok, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, est-ce que tu as les nerfs pour lorsque la bourse dégringole, de dire ok, est-ce que je vends, est-ce que je garde, et je pense que c'est pas pour tout le monde, moi je pense que moi j'y suis pas mis depuis très longtemps, hein. Donc Benjamin, R2D2, explique-nous un peu le fonctionnement de ce robot, parce que moi je pense comme beaucoup d'auditeurs, j'ai l'image du robot qui fait qui achète, qui vend qui fait du high frequency trading, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, ou tu as dit scalping, je crois, juste avant. Est-ce que c'est le même principe pour votre robot? Ou comment fonctionne votre robot?
En fait, pas du tout. Alors, notre robot, il est vraiment différent des trois quarts des robots, enfin, pas des trois quarts, on va dire des 98% des robots qu'on trouve sur Internet. Et déjà, je voudrais mettre un petit bémol. Faites attention quand même, quand on dit robot sur Internet, très honnêtement, bon, il y a des robots qui sont performants, hein, je ne vais pas dénigrer tous les robots, mais faites attention, il y a quand même beaucoup d'êtres un peu nigauds. Et beaucoup d'arnaques sur Internet. Donc voilà, je dis ça maintenant en toute connaissance de cause et connaissant notre système. Je suis pas garant de tous les robots. Voilà, c'est ce que je voulais dire de base. Après, notre robot à nous, il trade que sur trois marchés, ce qu'il faut savoir. On va traiter que sur le marché allemand, donc ce qui s'appelle le DAX,
Le date,
le marché français, le CAC, et le marché américain, le SP500.
Ok.
Donc, on traite uniquement ça, on est spécialisé que dans ces trois marchés-là. On ne va pas traiter une action Airbus ou on va traiter vraiment l'indice global du CAC,
Ok.
du DAX ou du SP. Et on cherche, notre robot, il cherche une tendance. C'est son but. Donc, lui, ce qu'il fait, notre robot, c'est tout simplement un logiciel, hein. Et lui, il calcule toutes les actions du CAC, donc on l'appelle CAC 40 parce que c'est 40
40
actions.
valeurs.
Du DAX, c'est maintenant désormais, c'est DAX 40 également, et du SP500. Donc il va calculer toutes les actions, les 40 françaises, les 40 allemandes, les 500 américaines. Il va en déduire si le marché il va être haussier ou baissier, donc techniquement si la valeur elle va monter ou elle va descendre. Et il va déduire s'il va y avoir une tendance. S'il pense qu'il y a une tendance positive qui va se dégager, il va aussi pouvoir mettre des leviers. Donc c'est un marché à levier. On gagne autant à la montée qu'à la descente. Ça, c'est un des avantages de notre robot. C'est-à-dire que quand il y a des chutes, comme là récemment, on a des chutes en ce moment, pour ceux qui suivent les marchés. La plupart des gens, malheureusement, ils perdent lors de ces chutes. Ben, nous, quand le robot, il vend, donc il achète à la baisse, et ben on arrive également à faire des profits. C'est d'ailleurs le meilleur profit qu'on a quasiment fait, c'était dans des grosses chutes.
Oui, là actuellement c'est aussi intéressant et c'est ça, c'est ce qu'oublient les gens, c'est que même quand la bourse tombe ou dégringole, on peut aussi gagner. Après voilà, il faut trouver ces leviers-là et c'est vrai que c'est un certain temps à investir, à apprendre à utiliser les bons outils. Ok.
Exactement.
Après, j'aimerais aussi rajouter, j'aime bien les disclaimers, ça fait très moderne, très 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 professionnel. Investir comporte des risques et tout ça. Donc, tout ce qu'on donne
Ça,
ici
c'est clair.
comme information ici, c'est basé sur, voilà, chacun prend les risques à son niveau. Faut jamais investir plus que ce qu'on est capable. Faut penser que ce qu'on investit, c'est de l'argent perdu. Voilà. Parce que moi, j'aime bien le
Exactement.
voir comme ça pour pas
Alors,
se mettre à risque. Excuse-moi, revenons sur ton sujet, Benjamin, sur le robot.
exactement ça, je te suis à 100% et je suis pas Madame Irma, je pourrais jamais savoir si notre robot il va performer autant qu'il a performé les dernières années dans le futur. J'imagine que oui, on a 10 ans d'expérience et les 10 ans d'expérience ont montré que chaque année on a été positif, plus ou moins haut, hein. Il y a des années on a un énorme pourcentage de
Pourcentage.
perfo, et il y a d'autres années comme l'année dernière où c'était moins gros que les autres années, hein. On était à 7-8% si je me rappelle bien. Du coup, voilà,
C'est déjà pas mal.
complètement raison, il faut vraiment dire aux gens, ça reste de la bourse, on ne sait jamais ce que demain sera fait, le futur, personne ne peut l'envisager, est-ce qu'il va avoir un cataclysme dans la bourse ou pas, on peut pas savoir.
Sachant qu'il y a tellement de paramètres et qu'on l'a vu sur ces dernières années, beaucoup parlent bon, donc de l'inflation, la dégringolade de la bourse sur toutes les valeurs, qui au final n'a pas été si importante. Bon, bien sûr, la tendance sur les 6 derniers mois, toujours à la baisse. Donc ça peut être, mais il y a eu des hausses très très importantes sur un an. Donc c'est à faire très attention. C'est voilà, ça comporte des risques et c'est vrai que d'un robot permet de gagner dans le sens de pas avoir à étudier, parce que c'est vrai que c'est un investissement. Moi, je le vois moi-même à étudier certaines sociétés ou les futures entreprises qui vont être mises en bourse pour savoir quelle va être la tendance. Et puis, tu peux faire des paris ou des pronostics et te planter complètement.
Exactement.
Et l'euro.
Là où notre robot, il investit, si c'était pas un robot, mais si on faisait l'investissement manuel, d'ailleurs le broker indique vraiment que 65 à 70% des gens qui investissent leur argent en mode manuel, donc sans robot, perdent de l'argent. C'est un métier. Être trader, c'est vraiment un métier, quoi. Donc le robot, il pallie à tout ça. Ce que j'adore du robot, hein, et c'est pour ça que j'ai été client, c'est qu'il fait le boulot à notre place, quoi. C'est entièrement automatisé, on n'a rien à faire. On a une application, toutes les minutes, si on veut, on regarde son application, voir ce que le robot y fait. Alors, le robot, c'est quand même, vu qu'on suit des tendances, c'est quand même 95% des fois de la frustration. Et 5% des fois, c'est le trade, enfin, les 5% des fois, c'est les trades qui nous font la perfo à l'année.
Ah, ok.
Donc, Donc c'est pas chaque mois on va gagner. Il y a un mois on va pouvoir être à moins 10, le deuxième mois peut-être encore à moins 5, donc cumulé moins 15, et le troisième mois on peut faire plus 28%. Enfin c'est voilà.
Oui, c'est pour ça qu'il faut aussi rappeler nos auditeurs que bon, les investissements en bourse, c'est pas du trade, on met de l'argent et tu ressors ton argent un mois plus tard parce que tu as fait 20%.
Non.
Ça c'est du rêve, ça serait trop facile. On est bien d'accord. C'est pour l'investissement de long terme, voilà.
Exactement. On conseille toujours aux gens, nous, regardez au moins sur une année, voire le mieux, comme moi je l'ai fait, c'est prévoir un investissement sur 2 ou 3 ans.
Exactement.
Nous, notre système, alors, bon, encore, hein, j'ai pas une boule de cristal, mais pour l'instant, si on regarde sur 3 ans, les 3 dernières années, avec notamment l'année dernière, la plus mauvaise des années, on reste dans une perfo moyenne de 30% par an.
Non, mais c'est quand même pas mal.
Ouais, c'est.
C'est même très bien. Est-ce qu'on développe un peu plus la thématique pour les coordonnées ou ceux qui s'intéressent, on te contacte toi Benjamin ou vous avez un site?
En fait, on a un site, hein, tout simplement, on est en train de. Alors, il est très archaïque, ce site. On est en train de le refaire, donc il devrait avoir le jeu. Le nouveau site sera lancé, j'imagine, quand ton podcast y sortira. Donc, logiquement, on le lance dans les 2 à 3 prochaines semaines.
Ouais, c'est
Et
bien.
le nom du site reste le même. Donc, c'est R2D2Trading.com. Aussi
Ok.
simple que ça.
Trading.com. Très bien, bah écoute, sur ce point-là, oui, le podcast, bah, c'est pour le mois de mars, donc je pense que d'ici là, on verra la nouvelle mouture du site et j'inviterai les gens à aller voir. On a beaucoup parlé sur ton parcours, ce qui est aussi très intéressant et ça t'a permis aussi de te lancer en entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a d'autres, on peut aborder d'autres thématiques? On avait parlé en off sur des projets plus dans l'énergie, dans les énergies renouvelables. Donc tu m'avais parlé de photovoltaïque au Maroc. On peut en parler de ce projet un peu ou pas?
Oui, ben en fait, grâce au fait d'avoir ce robot qui m'a laissé, qui m'a permis d'avoir pas mal de temps et pas mal de gains, j'ai pu ouvrir d'autres projets et d'autres projets à l'horizon assez proche
Comme investisseur, alors.
comme investisseur. Et là, je pense qu'on est tous un peu soucieux de notre avenir pour nos enfants, hein, et avec deux amis marocains. On a décidé de se lancer dans la création d'une entreprise au Maroc pour l'installation de panneaux solaires pour les privés comme pour les entreprises au Maroc. Alors, on n'est pas basé à Rabat,
La capitale.
mais on va amener à se déplacer partout. D'ailleurs, en mars, moi-même, on va déjà voir nos premiers clients et signer les premiers contrats.
Ah, c'est bien.
Donc voilà, maintenant c'est du concret. C'était en phase de projet depuis que j'ai quitté Airbus à maintenant, donc les 3 mois, et maintenant voilà, c'est officiel, on crée l'entreprise, on a nos premiers clients, et ça peut être de la station essence à des forages de puits par le gouvernement où ils ont besoin de panneaux solaires
Ok,
pour développer un peu ce secteur-là.
donc
Donc
ça veut dire des unités de production d'énergie solaire pour soit les particuliers, soit pour des endroits qui ne sont pas connectés au réseau. C'est ça?
Exactement,
Ah, d'accord, ok.
exactement. Particulier lambda, s'il veut acheter un terrain en plein désert du Maroc, il pourra le faire. On amènera ce système-là avec des batteries, avec des panneaux solaires premium et avec des micro-ondulaires. Enfin, après, ça devient un peu
Après,
technique,
c'est le
mais
côté
voilà.
technique. Ouais. Toute l'infrastructure, tout le système pour avoir une station de production d'énergie solaire pour son usage personnel. Ah, donc, parce que là, ok, ça c'est intéressant aussi. Donc, ça, j'aimerais bien, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé, on arrive presque à la fin du sujet, enfin de cet épisode, et je savais très bien, Benjamin, qu'on aurait énormément de sujets qu'on n'aurait pas pu aborder. J'aimerais un peu peut-être que ton expérience, ton vécu, si tu avais un ou deux conseils à donner à des gens qui veulent se lancer en indépendant ou les erreurs à éviter, quel serait ton conseil?
C'est tout récent pour moi, hein, comme
Oui,
je
mais on...
l'ai. C'est fin 2021 où je quitte Airbus. J'avais tous ces projets en tête depuis beaucoup de. Enfin, j'avais des projets, pas ces projets spécifiques, pas mal de projets en tête depuis plusieurs années avec pas mal d'amis et français et internationaux. Et en fait, le conseil que je dirais, c'est lancez-vous. Il y a pas, il y a tout, il y aura toujours des stoppeurs, hein. Je parlais au début d'un matelas financier. ça a jamais été. C'est qu'un stopper, c'est qu'une raison pour pas se lancer. Mais
Une fausse
si vraiment
espoir. Ouais.
on sent qu'on est prêt pour faire quelque chose, au pire des cas, se lancer et pas réussir, pour moi, je le prends toujours comme une bonne expérience. C'est une bonne expérience. Au moins, on aura de quoi raconter plus tard. Au moins, on saura si ça nous a plu ou pas plu. Et si jamais je me plante dans mes business, eh ben, j'aurais pas honte de revenir taper à la porte d'Airbus en disant, écoute,
J'ai
Airbus,
besoin de boulot, hein.
j'ai jamais été vraiment malheureux de travailler pour Airbus. C'est juste qu'il me manquait ce côté entrepreneur et je vais essayer d'aller dans cet axe d'entrepreneuriat. Mon conseil vraiment, c'est si on sent au fond de nous qu'on est prêt à se lancer dans l'entrepreneuriat, faut pas se mettre des barrières inutiles. C'est facile à dire, c'est vraiment facile à dire et c'est compliqué à faire, mais
C'est
j'ai
pas.
beau le dire, je le pense vraiment.
Ben alors, en fait, c'est un peu le motto qu'on a pour cette année sur ce podcast. Je l'ai dit déjà en prologue en début d'année. Je l'ai eu sur d'autres épisodes juste avant toi où on disait ben, osons, il faut oser. Le premier ennemi, c'est soi-même. En fait, on se met des barrières soi-même en disant ouais, mais si ça marche pas, mais si, si, si. Puis en fait, on s'enferme et puis on reste dans de l'immobilisme. On passe plus à l'action parce que on se dit mais ça va pas marcher. Puis au final. C'est toujours pareil, c'est se dire, moi, c'est quoi le worst case? Bon, ben, ça n'a pas marché, j'ai cramé, on va dire, mon budget que j'avais mis dans tel projet, et ben, on trouvera une nouvelle solution, parce qu'à un moment, s'il faudra aller chercher un boulot alimentaire, ben, on le trouvera, le boulot alimentaire. Hein. Mais je pense que je suis ravi que tu viennes apporter un peu dans le même sens, de dire, ben, il faut oser, on commence petit, comme on a eu sur l'épisode avant toi, on a eu Hugues. Qui a été dans de la finance pour lui faire la petite pub aussi, on lui fait de la pub au passage, et qui il lui manquait de se lancer, d'innover, et il se lance. Il commence à peine dans un conseil financier, et c'est pareil, tu vois, tu te lances, plein de projets dans la tête, en tester un, en tester deux, peut-être qu'à un moment il y a une graine qui va pousser. Écoute, je pense que c'est super, Benjamin. Peut-être un rappel de tes coordonnées pour des porteurs de projets ou des gens qui ont envie de t'accompagner sur d'autres projets, je ne sais pas.
Oui, j'ai l'adresse email classique. Hein, donc déjà, vous pouvez me trouver sur LinkedIn à Benjamin Tevel,
Ok.
Tevel. Et après, j'ai mon adresse email pour le robot, c'est benjamin.contact@r2d2trading.com.
Ok, tout écrit ensemble, r2d2trading.com. Ok.
Exactement.
Très bien. On mettra tout ça dans l'article du blog qui apparaîtra avec cet épisode. Je te remercie, Benjamin, de ton temps, d'apporter aussi cette énergie et ces idées, et puis montrer voilà, le parcours technique au début chez Airbus, et puis passer sur différents postes. Bon, c'est une grosse chance aussi. La volonté aussi d'apprendre des langues, de se remettre en question, de tester. Bon, je peux imaginer que ce n'est pas tous les jours facile. Mais bon, celui qui ne fait rien ne risque rien. Moi, j'aime bien le dire souvent, hein. Au pire, si tu réussis, c'est génial. Si tu te plantes, ben, tu auras appris une nouvelle compétence. Et ça, peut-être, ça servira beaucoup plus tard ou dans un prochain projet. Merci, Benjamin. Je te dis à bientôt.
Merci, et bien, à bientôt également, au détour d'un match de rugby sur une télé française.
Oui, on parle du Six Nations. Très bien. Merci du clin d'œil à toi. Ciao.
Ciao.
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, si vous êtes restés jusqu'au bout de cet épisode, je vous dis déjà bravo. J'espère que votre patience ou votre attente après la semaine off du podcast de Monsieur Jo vous aura été gratifiée par cet épisode. Au prochain épisode, donc dans 15 jours, oui, attention, maintenant nos diffusions sont tous les 15 jours. Nous allons à Hanovre, à 100 km au sud de Hambourg, rencontrer Tobias Nkoulou. Il est le cofondateur de Hotel.Spotting. Un épisode aussi riche en vécu personnel et parcours d'entrepreneur. Il ne me reste plus qu'à vous dire à dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux. Psst, psst. Bon, je ne vais pas parler d'abonnement aujourd'hui, mais je vais plutôt vous inviter, auditeurs, vous aussi, si vous êtes entrepreneur, francophone, francophile, en Allemagne ou ailleurs, de nous rejoindre, de me contacter, de contacter Monsieur Joe pour peut-être parler de votre parcours et partager votre expérience avec nos auditeurs. Je pense qu'ils en seront ravis. Donc, contactez-moi par LinkedIn, par le blog en envoyant un message. Je crois qu'il y a un mail de contact tout en bas. Ou sur vos différentes plateformes où vous pourrez me retrouver, où vous retrouverez Monsieur Joe. Merci, à bientôt.